Ayons commencé ce chapitre, ça enregistre, et nous avions vu le plus beau passage, hein, ces versets qui nous décrivent l'amour divin agapé, Christ lui-même, qui est patient, plein de bonté, qui n'est pas envieux, qui ne se vante pas, qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui ne fait rien de malhonnête, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne s'irrite pas, qui ne soupçonne pas le mal, qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais qui se réjouit de la vérité, l'amour qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Et nous allons continuer la lecture au verset 8 d'1 Corinthiens 13. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ce passage n'est pas si facile que cela, et il a suscité énormément de commentaires pendant les siècles de l'Église, de l'histoire de l'Église, avec de diverses interprétations. Donc nous essaierons d'être assez stricts dans la façon dont nous regardons ce passage. La parole de Dieu ne s'interprète pas n'importe comment, ce n'est pas chaque prédicateur qui dit « Tiens, moi je pense que ceci ou cela », mais il faut vraiment respecter les principes d'interprétation, le contexte, les mots, et puis la Bible en général. On n'exclut pas un passage, on l'interprète par rapport à toute la Bible. Alors, dans certaines versions, la version seconde, plus ancienne, il y a le mot « charité », parce qu'au début du XXe siècle, « charité » avait encore un sens profond. C'était un amour sacrificiel, un amour qui se donne. Aujourd'hui, le mot a évolué. On dit « faire la charité », c'est-à-dire donner à quelqu'un qui n'a pas d'argent, à un pauvre, à un clochard. Et donc, comme ce mot a évolué, les traductions l'ont modifié, ont mis « amour » à la place de « charité ». Mais dans l'original, c'est « agapé », qui est cet amour qui se sacrifie. Différent du mot « philéo », qui est le simple amour fraternel, l'amour humain, si on peut dire, mais « agapé », c'est l'amour divin qui se donne. Voilà. Donc, c'est bien de mettre « charité », mais pour, par exemple, un jeune d'aujourd'hui, il risque de mal interpréter faire la charité au lieu de parler de cet amour extraordinaire. Alors dans les versets qu'on a lus, il fait une opposition entre ce qui est partiel et ce qui est permanent. C'est ça qu'on remarque. Il dit, verset 10, « Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » Et au tout début, au verset 8, « Les prophéties seront abolies. » Les langues cesseront. Donc il y a des choses qui vont disparaître et des choses qui vont demeurer. L'amour en particulier est ce qui est permanent. L'amour ne périt jamais. L'amour ne disparaîtra jamais. Et c'est une merveilleuse nouvelle, chers frères et sœurs, c'est que l'amour ne partira jamais puisque Dieu est amour. Il faudrait tuer Dieu pour qu'il n'y ait plus d'amour. Et quand nous serons dans l'éternité, dans la gloire, nous serons dans l'amour de Dieu et nous vivrons dans cet amour, cette plénitude de l'amour qui est incommensurable, inimaginable, infini, et nous n'avons pas fini de nous en réjouir. Mais il y a des choses terrestres qui sont temporaires. Et c'est ça que Paul veut souligner parce que son contexte, c'est parler des défauts des Corinthiens qui s'attardaient sur le parler en langue. Ils étaient tous, comme je vous l'ai dit, en train de faire des compétitions de parler en langue. Le culte était en désordre et Paul va devoir régler ce problème. Et il dit, vous vous attachez à des choses qui disparaissent. qui sont en train de disparaître, qui ont une utilité à un moment, mais qui n'ont plus d'utilité après. Il faut s'attacher aux choses qui sont permanentes, qui demeurent. Qu'est-ce qui va disparaître? Il le dit au verset 8. Les prophéties, les langues et la connaissance. Alors quand il parle de la connaissance, il ne parle pas de la connaissance en général, évidemment. On est toujours en train de connaître, d'apprendre. Il parle du don de connaissance, hein, dont on avait parlé en 1 Corinthiens 12. C'était ce don de révélation, de connaître la volonté de Dieu pour l'Église et pour les chrétiens, pendant qu'il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Maintenant que nous avons le Nouveau Testament, nous le verrons, nous avons la révélation complète pour nous, aujourd'hui. On n'a pas besoin de plus. Mais à cette époque-là, ils avaient besoin de connaissances spirituelles pour savoir comment avancer, comment vivre leur foi dans la nouvelle alliance. Donc, le don de prophétie, le don des langues et le don de connaissances sont en train de disparaître. Voilà, vont disparaître. Et les mots qu'il utilise sont intéressants, notamment pour le don des langues. C'est un mot qui veut dire « ça va s'éteindre », comme une bougie, vous savez, qui brûle, et puis elle brûle de moins en moins, puis à un moment, il n'y a plus de cire, elle s'éteint. Et c'est vraiment le cas du parler en langue, mais aussi des prophéties, puisque lorsque les apôtres ont eu toute la révélation du Nouveau Testament, lorsque les derniers versets de l'Apocalypse ont été révélés, il n'y avait plus besoin de connaissances prophétiques puisque toute la révélation était là. Pareil, donc connaissances, prophéties sont liées ensemble et les langues sont encore à part. Il dit bien, verset 9, « Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra ou sera aboli. » Alors, qu'est-ce que c'est ce qui est parfait? Donc là, c'est là qu'il y a eu beaucoup de débats, de questions. Si on ne réfléchit pas, on pourrait dire ben, il s'agit de Christ. Quand Christ va venir, tout ce qui est partiel va disparaître. Mais le problème, c'est que le « ce », là, « ce qui est parfait », c'est un mot qui est neutre, qui ne désigne pas une personne. Ils auraient mis « quand celui qui est parfait ». Mais là, c'est « ce », c'est quelque chose de matériel, c'est de neutre. Alors, qu'est-ce que c'est « ce qui est parfait » ? Eh bien, le mot « parfait », là, c'est un mot qui est employé souvent dans le Nouveau Testament et qui ne veut pas dire « parfait sans faute ». C'est pas ça que ça veut dire. Voilà. Il ne faut pas prendre le mot « parfait » dans le Nouveau Testament comme voulant dire « aucun péché, aucune faute, rien ». « Parfait », c'est le mot qui veut dire « accompli ». Être parfait, c'est vraiment être arrivé à maturité comme une fleur qui est ouverte. Elle ne peut pas aller plus loin, elle ne peut pas s'ouvrir plus. Elle a une perfection dans ce sens. Elle n'est pas parfaite parce qu'elle a des défauts, cette fleur, mais elle est parfaitement accomplie dans ce qu'elle doit faire. Et de même, nous cherchons en tant que chrétiens à être parfaits, c'est-à-dire à accomplir le plus possible la volonté de Dieu, à être mûr, à être semblable à Christ, on l'a vu tout à l'heure. Donc, quand la pleine maturité arrivera, sera venue, ce qui est partiel disparaîtra. Alors qu'est-ce que c'est cette maturité dont il parle ? Avant de répondre à ça, on va voir qu'il continue dans l'idée de maturité en donnant une image, un exemple. Au verset 11, il parle de l'enfance et de l'adulte, l'enfant et l'adulte. Il dit « quand j'étais un enfant, ben, qu'est-ce que je faisais ?» Ben, je parlais comme un enfant. Comment parle un enfant ? Et là, c'est le mot « bébé ». Ce n'est pas le mot « enfant », c'est le mot « bébé » dans le grec. Hein. Comment je parlais quand j'étais bébé ? Je faisais « da, 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 papa, mama », c'était à peu près tout. C'était ça, ce que je disais. Comment est-ce que je pensais ? Ben, je pensais peu, je pensais un peu, mais pas beaucoup. J'ai faim, j'ai mal au ventre, j'ai sommeil. Maman, voilà. Je raisonnais comme un enfant, donc mon raisonnement était assez limité quand j'étais bébé. Et il dit, quand je suis devenu un homme, eh bien, j'ai quitté mon enfance. Et ça, c'est ce qui devrait arriver normalement. Malheureusement, il y a des personnes qui restent dans leur enfance, hein. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on devienne des hommes. C'est-à-dire, quand je suis devenu un homme, j'ai arrêté de babiller. Je ne parle plus en faisant da, 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 da. Je m'exprime avec des phrases. N'est-ce pas? Et pourquoi je dis babiller? Parce que lorsque, au début du chapitre, il disait « Je suis une cymbale qui retentit si je parle toutes les langues, mais que je n'ai pas l'amour. » Et le mot « retentir », c'est un mot grec qui a dedans, qui a « lala ». C'est « lalazo ».« Lala ». Et c'est vraiment un mot qui est pris sur une onomatopée des enfants. Je suis une cymbale qui fait « lala, lala, lala ». Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le mouvement pentecôtiste qui est né à peu près au tournant du XXe siècle, le parler en langue, principalement, c'est « la, 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 la hein, ». C'est « la, la, li, li, di, di, da, da, da ». Mais c'est quelque chose qui ressemble beaucoup au babillage. Et je pense que les Corinthiens faisaient quelque chose de similaire. Et Paul leur dit « Quand j'étais bébé, c'était bien, normal d'être bébé. Maintenant, je suis un homme, on passe à autre chose. » Et il utilise trois mots, hein, « je parlais, je pensais, je raisonnais ». Et c'est certainement un rapprochement avec le parler en langue, la prophétie, la connaissance. Il avait utilisé trois choses hein, qui allaient disparaître. Parler en langue, prophétie, connaissance. Je parle, je pense, je raisonne. Trois choses en face. Donc, il dit, ces trois choses, c'est pour l'enfance de l'Église. Maintenant, j'interprète là, attention. Je suis en train d'interpréter le passage. Le parler en langue, la prophétie, la connaissance, c'était pour l'enfance, les débuts de l'Église. Quand l'Église était bébé, qu'elle avait besoin de signes, elle avait besoin de connaissances, de révélations. Mais quand l'Église devient mature, quand on commence à savoir ce qu'il faut faire, quand les églises sont organisées, quand il y a le Nouveau Testament qui nous guide, je n'ai plus besoin de ces choses de bébé, de l'enfance. Hein. Je dois maintenant passer à des choses adultes. Et c'est quoi les choses d'adultes? Qu'est-ce qui différencie profondément le comportement d'un adulte et le comportement d'un tout petit enfant? La responsabilité. Alors, il y a moins d'innocence, certainement, mais je dirais dans le comportement. L'innocence est plutôt dans la conscience. Effectivement, le bébé n'a pas tous les péchés que l'adulte possède. Mais dans la maturité, l'adulte est responsable, c'est-à-dire, il pense, alors là encore, normalement, parce que ce n'est pas le cas partout, il pense aux autres. Le petit enfant, il n'est pas fait comme ça. Le petit enfant, il pense à sa survie. Donc, dès qu'il a besoin de quelque chose, il crie. Et il ne crie pas par entêtement, parce qu'il y a certains parents qui ne comprennent pas les cris des bébés, ils pensent que les bébés sont des entêtés, font des caprices. Le bébé, c'est sa seule façon de s'exprimer quand il a mal, ou quand il a faim, ou quand il a soif, ou quand il a un problème, c'est il crie. Il ne sait pas parler, voilà. Il ne sait pas exprimer, dire « écoute maman, j'ai un problème ». Non, il ne peut pas faire ça. Donc, il ne pense qu'à lui, tout est centré sur lui. Le bébé est vraiment le centre. Hein, quand les maris en souffrent un petit peu, des fois, lorsqu'un bébé naît, c'est que le bébé devient le centre de la famille. La maman doit le nourrir, si elle le nourrit au sein. Et on doit tout le temps veiller sur lui, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, 24 heures sur 24. On est là à le regarder. Il est le centre. Et c'est normal, il n'y a rien de mal là-dessus. C'est la vie d'un bébé. Mais quand on devient adulte, normalement, on change. Il y a encore des gens, malheureusement, qui restent totalement égocentriques hein, et qui veulent qu'on fasse tout et qui font des caprices, par contre, pour le coup, quand on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Mais le vrai adulte, l'adulte tel que Dieu le veut, c'est quelqu'un qui commence à penser aux autres, à penser à la collectivité, qui est prêt à se sacrifier pour les autres, pour le bien de la collectivité, qui fait les choses même quand ça ne lui plaît pas. Un enfant, demandez-lui de faire quelque chose quand ça ne lui plaît pas, c'est très, très compliqué. Parce qu'il ne comprend pas. Mais ça ne me plaît pas. Pourquoi tu me demandes un truc qui ne me plaît pas? Il ne comprend pas que ça peut servir. Quand vous essayez d'expliquer à un enfant, mais travaille parce que tu auras un beau métier. Pour l'enfant, un beau métier, c'est tellement loin. Et lui, ce qu'il veut, c'est jouer aux billes ou à la PlayStation. Un beau métier, ça lui passe au-dessus. Mais quand on est adulte, normalement, on a du plomb dans la tête et on se dit, attends, là, il faut que je fasse attention parce qu'il y a mon avenir. Comment je vais gagner de l'argent, comment, etc. Pourquoi il y a cette image-là? C'est qu'il y a l'Église, dans sa naissance, elle avait besoin de certains éléments spirituels, prophétie, connaissance, parler en langue même. Mais quand elle devient mûre, quand elle devient établie, il faut passer à autre chose. Et c'est l'amour, là, qui est bien sûr le don suprême, qui est la maturité suprême, c'est de pratiquer l'amour. Il parle aussi quand même des dons d'édification, la prophétie, même si elle doit disparaître, était encore meilleur quand même, selon lui, que le parler en langue, parce que la prophétie, au moins, était édifiante. Donc, il dit, quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Il dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que la connaissance qu'il recevait n'était pas complète. Il tâtonnait, il découvrait les choses de Dieu, de la nouvelle alliance. À l'époque, les miroirs n'étaient pas faits comme les nôtres avec de la silice. Hein. Ils n'étaient pas parfaitement réfléchissants. Les miroirs, c'était du métal frappé, hein, comme dans Astérix et Obélix. Et donc, on se voyait d'une manière obscure, ça c'est sûr. Hein. Ce n'était pas très clair l'image qu'il renvoyait. Et c'est ce qu'il veut dire ici, nous voyons d'une manière obscure. La révélation est encore à ses débuts, on ne voit pas très clair. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alors là, il y a débat sur ce passage. Est-ce que ça parle de la maturité de l'Église? Je verrai face à face, je connaîtrai comme j'ai été connu. Ou ça parle du ciel? Personnellement, je n'arrive pas à voir autre chose que l'état éternel dans ce passage, dans ce verset. C'est-à-dire voir face à face et voir quand même le Seigneur face à face. Connaître comme on a été connu, c'est un verset de 1 Jean. Où il dit, hein, quand Christ reviendra, nous connaîtrons comme nous avons été connus. C'est-à-dire, tout sera dévoilé, on comprendra tout, on saura pourquoi Dieu a fait ça et ça dans notre vie, on saura qui on est vraiment profondément, parce que là, ce n'est pas encore très clair toujours ce que nous avons dans le cœur. Mais là, tout sera clair, révélé dans le ciel. Ce sera le moment merveilleux où nous serons dans l'éternité, dans l'état éternel. Mais il dit, maintenant, ces trois choses demeurent, verset 13. Et il faut, vous voyez, voir la chronologie. Il dit, là, on a eu le parler en langue, la prophétie, dans les débuts de l'Église. Dans le ciel, il y aura l'amour éternel. Il n'y aura plus le reste, il n'y aura que l'amour, parce que l'amour, c'est permanent. Mais maintenant, verset 13, trois choses restent. Trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Et dans ces trois choses, il y en a deux qui vont sauter. Lesquelles? La foi et l'espérance, elles vont sauter quand? Quand nous serons au ciel. Au ciel, on n'a plus la foi puisqu'on voit le Seigneur. Au ciel, on n'a plus l'espérance puisqu'on l'a. On n'attend plus. Elle est là. Donc, il dit, maintenant, on a la foi, l'espérance, l'amour. C'est ça qui est la maturité chrétienne. Au ciel, il n'y aura plus besoin que de l'amour. On n'aura plus que l'amour. Mais tous ces trucs de parler en langue et tout ça, c'est pour le début de l'Église. Maintenant, c'est la foi, l'amour, l'espérance. J'aimerais dire, citer un verset au sujet de la maturité de l'Église, que nous n'avons plus besoin de prophétie, de révélation. C'est 2 Timothée 3,16, qui est un verset très important. Donc c'est Corinthiens est une des premières épîtres de Paul, alors que 2 Timothée, c'est une des dernières, hein, écrites à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il dit en 2 Timothée 3,16? Toute l'écriture, hein, littéralement, il parle de la Bible là, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit, et là c'est le mot pareil, parfait en fait, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est le même mot, parfait. Qu'est-ce que dit ce verset? C'est que nous avons maintenant toute l'Écriture, tout le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, elle est suffisante pour rendre l'homme de Dieu, bon là il parlait au pasteur, hein, parce qu'il parlait à Timothée, mais c'est tous les chrétiens, accompli, propre à toute bonne œuvre. Elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire. On n'a pas besoin d'autre chose. On a toute l'écriture qui est suffisante et qui est inspirée par Dieu. Voilà. Et c'est l'Apocalypse qui dit, si quelqu'un rajoute ou retranche à cette prophétie, hein, son nom sera retranché. Et donc, on n'ajoute rien à la parole de Dieu, on ne retranche rien. L'Ancien et le Nouveau Testament sont aussi importants parce que des fois, les chrétiens disent, oh, l'Ancien Testament, c'est bien de savoir, mais non, c'est inspiré de Dieu, c'est la parole de Dieu, et on ne comprend pas le nouveau sans avoir lu l'ancien. Le nouveau se fait continuellement référence à l'ancien, c'est toute la parole de Dieu qui est importante, toute l'écriture. Mais il met bien l'écriture, Il ne parle pas des paroles en l'air, des prophéties en l'air. Il dit l'Écriture. C'est important de suivre les Écritures écrites, le livre de Dieu. Concernant la foi, l'espérance et l'amour, c'est vraiment les trois piliers de la vie chrétienne. Nous marchons par la foi, nous sommes sauvés par la foi, nous vivons par la foi sans voir le Seigneur. L'espérance, c'est notre attente. Un chrétien qui n'a pas d'espérance, c'est un chrétien triste. C'est un chrétien démoralisé souvent. Quand le chrétien perd son espérance, il perd courage parce que ce monde est difficile, ce monde est sombre, ce monde ne va pas vers le meilleur. Donc c'est dur d'être un chrétien. À toutes les époques, ça a été difficile d'être un chrétien engagé. Tout le temps, il y a toujours eu des problèmes, des persécutions, des difficultés. Donc si on n'a pas l'espérance qui nous dit oh, « un jour, je serai avec le Seigneur, j'en finirai avec tout ça, je serai dans la paix, il n'y aura plus de larmes, plus de persécutions, et tout le monde sera dans la louange et l'adoration du Seigneur. » C'est ça qui nous motive aussi dans la vie chrétienne. Et puis bien sûr l'amour. Dieu est amour, Christ est l'amour, et sans l'amour, le chrétien est vide. Il ne sert à rien. Hein. Je ne sers à rien si je n'ai pas l'amour. Est-ce que vous avez une question sur ce qui a été dit jusque-là, puisqu'on a fini le chapitre 13? On ne sait pas. Donc la question c'est quelle est la différence entre prophétie et connaissance? La prophétie a deux aspects. Elle a l'aspect édification simplement et l'aspect annoncer des choses futures. Voilà. Mais dans l'Église c'était surtout des choses présentes d'édification. Les prophètes, ils parlaient dans l'Église. C'était vraiment un ministère de langue où on parlait. Alors que la connaissance, c'était plutôt peut-être quelqu'un qui écrivait ou qui parlait avec les chrétiens, mais un à un. Ce n'était pas forcément quelqu'un qui prêchait dans l'Église. Voilà. Mais pour le reste, on ne sait pas. On n'a pas assez de détails dans les Écritures pour faire vraiment la différence. Et même les premiers chrétiens qui ont écrit ne donnent pas assez de descriptions sur ces choses. Mais c'est quand même très lié. Le prophète doit avoir la connaissance pour prophétiser quelque chose à l'Église.
C'est comme un don, alors il serait peut-être victime d'un don. Un don de connaissance pour pouvoir prédire.
Ah, c'est un don de connaissance, oui. Ça s'appelle le don de connaissance, oui. Oui. Il n'est pas victime, mais il est inspiré. Alors, on commence le chapitre 14, qui continue toujours dans la même veine. Recherchez l'amour, 1 Corinthiens 14. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Donc on voit bien que là, il s'attaque vraiment au parler en langue des Corinthiens. il va dans le vif du sujet et il fait en fait des reproches presque ironiques ou sarcastiques. Ce n'est pas évident de le discerner de prime abord parce que certains le prennent au premier degré. Par exemple, lorsqu'il dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. » Quand vous le prenez au premier degré, vous dites « Bah oui, il parle dans des langues extatiques, mystiques, personne ne le comprend. » Mais au deuxième degré, Paul est en train de leur faire un reproche. Il dit « Celui qui parle en langue, il ne sert à rien. » Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Donc, il parle dans l'église, « La machabalana, machabalamana. » Qu'est-ce qui a été édifié par ça? Désolé, qu'est-ce que ça peut édifier? Un bébé, peut-être, il va répondre, un bébé, et il va lui dire « da-da-da-da ». Mais c'est ça qu'il est en train de montrer. Et il est un peu ironique parce que les Corinthiens, je vous l'ai dit au tout début, mais je le répète, ne pratiquaient pas le parler en langue du livre des Actes. Dans le livre des Actes, les langues étaient des vraies langues. Le mot qu'il emploie dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, c'est le mot « langue », le mot « langue parlée », langue connue, avec une grammaire, avec un vocabulaire. Eux, ils avaient pris le parler en langue extatique des mystiques, hein, des païens, des temples païens, où le prophète ou la prophétesse, la Pitti, parlait dans un langage inintelligible et les prêtres traduisaient, voilà, ce qu'ils voulaient. Et donc les Corinthiens, ayant été vraiment touchés par cela, se sont mis à faire ça dans l'église, mais en disant « Non, maintenant on est chrétien, c'est du langage chrétien. » Mais qu'est-ce que vous en savez que c'est chrétien, puisque vous ne savez pas ce que vous dites? Et c'est pareil encore aujourd'hui, il y a des gens qui parlent en langue, ils ne savent pas ce qu'ils disent dans l'église. Nous avons, et il y a des dizaines d'exemples, et je ne vais pas commencer à rentrer dans les exemples, parce qu'on veut rester dans la parole, mais ce frère que nous connaissons bien, Grégoire, qui vit dans le Nord, il a été amené à Christ dans une église pentecôtiste. Et ses frères lui ont parlé du Seigneur, et par la grâce de Dieu, il est venu au Seigneur, et vraiment que ses frères soient loués pour leur zèle dans l'Évangile. Et donc, il a commencé à assister aux réunions, il a été baptisé, et puis, à un moment, on lui a dit « Mais est-ce que tu as eu le baptême du Saint-Esprit ?» Il a dit « Non. » « Ah, alors il faut que tu aies le baptême du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas le tout, là, de croire. Il faut avoir... Ah bon, mais je ne savais pas. Mais si, regarde, c'est dans 1 Corinthiens 12, 13. Ah bon, d'accord. » Et il dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?»« Ben, il faut que tu parles en langue. » »« Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ?»« Ben, on va faire une réunion de prière avec toi et tu vas voir, tu vas parler en langue. » Et donc, ils ont prié pour lui. Ils ont dit « Prie comme nous. » Et ils ont prié tous ensemble autour de lui, tous en même temps. Et au bout d'un moment, ça a démarré comme une voiture hein, qu'on a lancée. Et il s'est mis à prier en langue aussi. Et il était content. Il dit « Oh, je me sentais tellement comme libéré. C'était merveilleux, cette expérience. » De parler sans savoir ce que vous dites, c'est quelque chose. Bon. De prier sans savoir. Et on m'a dit, quand tu pries, c'est des louanges supérieures. C'est supérieur aux louanges en français, parce que c'est la langue des anges, tu es en train de parler. Tu ne te rends pas compte, c'est extraordinaire. Et donc, il a commencé à parler en langue, et au bout de 2 semaines, il a eu des attaques de blasphème dans sa tête. Donc, il avait des blasphèmes qui lui venaient en pensée. Il n'avait jamais eu ça de sa vie, donc il est allé voir le pasteur et il dit « Pasteur, j'ai un problème de... Qu'est-ce qui se passe? C'est une attaque? Ah, c'est le diable. Écoute, il faut que tu pries en langue plus. » Donc il a prié en langue plus de temps. Et plus il priait en langue, plus il avait l'impression que ça augmentait. Et il a décidé de se renseigner. Il a acheté un livre, le livre de Raph Chalice sur le... Je ne sais plus le titre maintenant... Ouais, je parle en langue plus. Non, Raph Chalice, c'est un autre. Et donc, sur les dons, les signes pentecôtistes, c'est un livre assez équilibré et ça a commencé à semer un peu un doute par rapport avec la Bible. Il s'est dit, mais quand même, la Bible, c'est des langues normales, c'est pas du charabia. Et il a décidé d'arrêter de parler en langue pendant 1 semaine. Et au bout d'une semaine, il n'avait plus de blasphème. Il a repris la prière en langue, blasphème. Il a arrêté, plus de blasphème. Donc là, il a dit, il est allé voir le pasteur, il a dit « Pasteur, vraiment, je pense que ce parler en langue là que vous m'avez donné, c'est diabolique. Voilà. Parce que ça me pousse à blasphémer. Je ne sais même pas ce que je dis, j'ai peur de dire des blasphèmes au Seigneur dans l'église. » Et donc, il a arrêté et il a cherché une autre église. Voilà comment on peut être pris dans un danger que Paul dénonce. Il dit, quand je prie, verset 14, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » D'après vous, c'est un compliment ou un reproche ? C'est un reproche, mais beaucoup le prennent au premier degré. Dit oui, c'est normal, c'est le parler en langue des anges, tu ne peux pas réfléchir, c'est supérieur à la raison humaine. Mais non, il est en train de leur dire, hey, mon ami, quand tu parles en langue à ta façon, là, ton cerveau, il est à zéro. Ça veut dire que n'importe quoi peut t'arriver, n'importe quel esprit peut venir prendre possession de toi. Il faut savoir que le parler en langue existe dans d'autres religions que la religion chrétienne, le parler en langue extatique, pas le parler en langue biblique, hein. Chez les derviches tourneurs musulmans, il y a un langage comme ça. Dans les mantras, c'est une forme de parler en langue aussi, un peu différente, où on répète les noms des divinités, hein, jusqu'à ce qu'on soit dans un état de transe. Ici, Paul donc nous avertit. Il n'est pas en train de louer le parler en langue, il est en train de dire il vaut mieux prophétiser parce qu'au moins vous édifiez les gens et ils vous comprennent. Tout à fait, dans le vaudou, il y a cette transe également. Chaque fois qu'il y a une transe mystique, en fait, souvent il y a un langage extatique. Alors, il y en a qui disent, oui, mais quand même, regardez verset 2, 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il dit des mystères. Et puis, chapitre 13, verset 1, quand je parlerai les langues des anges. Donc, voyez bien, il y a un parler en langue des anges où on dit des mystères. Mais le mot mystère, c'est un mot qui était très, très employé chez les païens, dans la religion païenne. C'était la religion des mystères. La religion babylonienne, c'est la religion des mystères. Carrément. Alors que les mystères dans le Nouveau Testament, il y en a des mystères, mais Paul dit, les mystères vous ont été révélés. Dans la Bible, Dieu veut révéler, il ne veut pas cacher. Le parler en langue, c'est caché, vous ne savez pas ce qui est dit, vous ne comprenez rien. Et ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour éclairer, révéler, instruire, corriger aussi. Y a-t-il à parler en langue des anges ? Une langue des anges. Alors, là, vraiment, ça repose juste sur un verset. En général, quand une doctrine repose sur un seul verset, il faut s'en méfier. Dieu a dit que c'est sur la déposition de deux ou trois témoins qu'une vérité doit être jugée. Or, un verset, c'est un seul témoin et il faut faire attention. C'est pareil un peu aussi avec la question du voile. Il y a un passage avec un verset en particulier, mais dans le reste du Nouveau Testament, il n'en parle pas du tout. On voit bien qu'il y avait un problème chez les Corinthiens, qui était d'ailleurs lié à la religion païenne encore, la question du voile pour les femmes, puisque les femmes chrétiennes se grimaient comme les prostituées païennes du temple, païens du coin. Donc Paul leur dit, habillez-vous d'une façon modeste et belle. Donc ici, le parler en langue des anges. Quand les anges parlent dans la Bible, comment est-ce qu'ils parlent ? Ils parlent les anges dans la Bible. Ben, on les comprend, tout le monde les comprend. Il n'y a pas de traducteur, ils parlent la langue des gens. Voilà. Donc pourquoi il y aurait une langue des anges ? Puisque quand ils savent très bien s'exprimer dans notre langue. Donc j'ai un peu perdu ma ligne, pardon. Voilà, dans le livre des Actes, on les a compris quand ils ont loué Dieu en langue, les Juifs qui étaient là les comprenaient, parce que c'était leur langue maternelle. Ils nous parlent dans nos langues, ils louent le Seigneur dans nos langues. Alors qu'à Corinthe, il dit « personne ne vous comprend ». C'est un problème, c'est que le parler en langue, en fait, aurait été éteint, ça ne servait plus à rien. On va le voir au chapitre 14, la prochaine fois. Que le parler en langue était un signe pour les incrédules juifs. C'était pour leur dire, désormais l'évangile est universel, ce n'est pas que pour les juifs, ce n'est pas que en hébreu ou en araméen. Maintenant, on loue le Seigneur dans toutes les langues du monde et on va prêcher l'évangile dans toutes les langues et Jésus est le sauveur de tous les hommes, qu'ils soient juifs ou grecs. Et donc là, il leur dit, Il vaut mieux prophétiser parce qu'au moins vous édifiez. Et je terminerai ce soir avec ces... Il donne deux images au verset 7 et 8, l'image des flûtes et l'image de la trompette. Il dit, si je vous joue un morceau de flûte, ou on pourrait dire un morceau de piano, et qu'il n'y a pas de musique et de partition, c'est-à-dire, je tape comme ça, comme un enfant, vous savez, il fait bling, 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 bling. Ou si je joue sans qu'il y ait rien, aucune partition, aucun sens, aucune harmonie, aucune mélodie, aucune clé, aucune note, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui nous joue là ? C'est arrivé à mon épouse, elle a été écouter un concert de trois clarinettes, je crois, ou quatre, à saxophone contemporain, c'est-à-dire c'est de la musique contemporaine. Et donc c'était gratuit, me semble, et donc des gens sont venus, c'était à la Villette, la cité de la musique. Donc ils ont commencé à jouer tous les trois ou quatre ensemble, mais c'était une cacophonie de saxophones. Et le saxophone, c'est fort. Et elle a dit, les gens commençaient à se lever et à partir. Ils n'en pouvaient plus, c'était insupportable. Et au bout d'un moment, elle a dit à son ami, on reste ou on y va ? Écoute, allons-nous-en, parce qu'on veut essayer de leur donner une chance. Tu sais, bon, il paraît que c'est de la musique. Bon, voilà. Mais c'est un peu ça ce qu'il est en train de dire. Franchement, ça n'édifie personne, ça ne sert à rien. Une belle musique qu'on comprend, ça vous élève. Pareil, la trompette pour les soldats. Si, il y a des codes, hein, la trompette, il y a la sonnerie du réveil, et puis il y a la sonnerie de la charge. Si vous mettez la sonnerie de la charge le matin, ils ne vont rien comprendre. Ils vont être dans leur lit, ils vont dire quoi, il faut charger qui. Chaque sonnerie de trompette avait un sens, un message. Voilà. Pareil dans l'église. Si je me mettais à parler et que vous ne compreniez rien à ce que je dis, à la fin du message, vous diriez, vous seriez stupéfait, vous seriez, comme on dit, en état de sidération, mais ça ne changerait rien à votre vie. Jésus a toujours parlé la langue de ceux qui l'écoutaient, il n'a jamais fait de mystère, de choses bizarres, et donc c'est ce que nous devons pratiquer. Je m'arrêterai là ce soir. Nous devons chercher ce qui est permanent, ce qui est éternel. On doit le chercher aussi dans la vie de tous les jours. L'homme s'attache à tellement de choses qui vont disparaître. Jésus a dit, attachez-vous aux choses d'en haut, aux choses éternelles. Paul l'a répété en Colossiens. Et nous devons vraiment penser à ce qui est éternel. Et ce qui est éternel, c'est l'amour. C'est l'Écriture. Nous devons la pratiquer, la vivre, la prêcher, la proclamer, la connaître, la vivre, et nous devons nous édifier les uns les autres. C'est ça le but du chrétien dans l'Église, c'est de s'édifier, de s'encourager. Pour s'encourager, il faut se comprendre. Et se comprendre, ce n'est pas juste parler la même langue. Il faut aussi se comprendre spirituellement, se mettre à la place de l'autre. L'aimer, quand on aime quelqu'un, on le comprend. Il y a cet artiste qui a fait une expérience. Il a pris des personnes très différentes et il les a fait s'asseoir sur un banc, l'une en face de l'autre, en se regardant dans les yeux pendant une minute. Il dit, vous ne dites rien, mais vous vous regardez dans les yeux pendant une minute. Et après, vous me direz ce que vous avez ressenti. Et donc, il y avait par exemple, l'exemple était frappant, parce qu'il y avait une musulmane voilée, et puis un gars qui n'était pas musulman spécialement. Et donc, ils se sont regardés dans les yeux, et c'était obligé de regarder dans les yeux. Et ils ont tous dit, hein, ils ont dit, ça m'a fait quelque chose, j'avais une compassion, une empathie, j'avais envie de parler après à cette personne. Parce que le fait de regarder dans les yeux, c'est les fenêtres de l'âme. Hein. Ça vous donne envie d'aller plus loin. Et il faut qu'on ait cet amour-là qui regarde dans les yeux, qui voit l'âme des personnes plus que juste l'aspect extérieur. Et que le Seigneur nous aide à pratiquer ce qui est permanent et cet amour divin. Amen.